Radio Okapi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Radio Okapi. Je suis Christian Makasinga, merci de votre compagnie. Voici les principaux titres de l'actualité. La RDC prend le commande du Conseil de sécurité de l'ONU, une responsabilité diplomatique majeure qui place les pays au premier rang des discussions mondiales sur la sécurité, la prévention de conflits et la paix durable. 1,3 milliard de dollars pour mettre la jeunesse au travail, lancé par Félix Tshisekedi, le programme Debout Jeunes Congolais veut créer 2 millions d'emplois et stimuler l'entrepreneuriat d'ici à 2032. La santé de la mère et l'enfant à l'honneur. Invité de ce journal, le professeur Célestin Kadima, chef du département de gynécologie obstétrique à l'université officielle de Mbujimayi, expliquera les enjeux de la formation en échographie gynécologique et obstétricale en cours au Kasaï oriental. Encore une fois, bienvenue dans ce journal.
La République démocratique du Congo à l'avant-scène de la diplomatie mondiale. Depuis ce mercredi 1er juillet, Kinshasa prend le commande du Conseil de sécurité des Nations Unies en assurant sa présidence tournante. Une responsabilité stratégique qui place la voix congolaise au cœur de grandes décisions sur la paix et la sécurité internationale. Pour le gouvernement, cette présidence offre à la RDC l'occasion de peser davantage dans le débat mondial et promouvoir le multilatéralisme et contribuer aux efforts de prévention de conflits ainsi qu'à la construction d'une paix durable. Les détails avec Ronelli Timbonera.
Il s'agit de la première fois depuis plus de 30 ans que la RDC préside les conseils de sécurité. Placée sous la devise « plus de paix, plus de justice, plus de développement, plus de multilatéralisme », cette présidence privilégiera des questions liées à la gouvernance des ressources naturelles, la protection des populations civiles, la lutte contre l'impunité, la justice transitionnelle, l'agenda femmes, paix et sécurité, ainsi que l'implication des jeunes dans la consolidation de la paix, indique ces communiqués du ministère des Affaires étrangères que nous avons consulté. Ces mêmes documents révèlent que trois événements majeurs marqueront ces mois des présidences de la RDC. Le 8 juillet, la première ministre présidera un briefing consacré aux violences sexuelles liées au conflit. Le 13 juillet, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères conduira une réunion selon la formule ARIA sur les liens entre ressources naturelles, conflits et paix. Enfin, le 21 juillet, le président de la République dirigera un débat public de haut niveau consacré à la gouvernance des ressources naturelles présentées comme un levier de paix, de sécurité et de prospérité. Il convient de rappeler que cette présidence de la RDC intervient 6 mois après sa prise des fonctions comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon les prescrits de l'organisation, chaque membre du Conseil assurera une présidence rotative d'une durée d'un mois suivant l'ordre alphabétique et s'accorde sur un programme de travail mensuel.
Au Nord Kivu, la situation sécuritaire reste très volatile ce mercredi dans plusieurs localités du territoire de Masisi. Les actions Ngungu Fomandou dans la chefferie des Baoundé ainsi que Nyangé Bibwe en chefferie des Bachali figurent parmi les zones les plus touchées. Jusqu'à mardi, ces localités ont été le théâtre de violents affrontements opposant la rébellion des F-123 à des coalitions de groupes Wazalendo. Selon des sources locales, le combat se sont ensuite étendus à certaines zones du territoire voisin des Kalehe dans la province du Sud Kivu. Les détails avec vous, Ronelli Timbonera.
Un calme précaire est observé jusqu'en fin de matinée, ces mercredis dans plusieurs zones affectées, rapportent différentes sources contactées dans la région. Celle-ci souligne toutefois que la situation demeure très tendue, les forces en présence restant en position d'observation. Dans la partie sud du territoire de Masisi, la coalition de Wazalendo, sous le commandement des Maachano du groupe Mai Mai Lamuka, aurait progressé lundi jusqu'à Kasake, à environ 5 km de l'agglomération agro-pastorale d'Engungu. Cependant, de nouveaux affrontements ont été signalés mardi à Kiambombo et Lumbishi, dans le groupement voisin des Iralo, territoire des Kalehe. La journée du 30 juin a également été marquée par une forte tension dans la localité d'Empati. Des tirs d'artillerie lourde ayant été entendus, notamment dans le village des Nyangé et Bibwe, dans le groupement des Bachali Mokoto. Selon certaines sources, ces affrontements auraient fait un mort parmi les civils et 7 blessés. Des cas de pillage des biens et des bétails appartenant aux populations locales ont également été rapportés. Rappelons que depuis la semaine dernière, la situation restait préoccupante dans cette zone située à cheval entre les territoires de Masisi et Kalehe. Alors que la crise humanitaire s'aggrave à la suite des violences armées, la précarité des communautés locales ne cesse de s'accentuer, déplorent plusieurs acteurs de la société civile.
Faire de la jeunesse congolaise une force de production, d'innovation et de création d'emplois, c'est l'objectif du programme présidentiel Debout Jeunes Congolais, lancé ce mardi par Félix Tshisekedi. Inspiré des recommandations de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, ces initiatives prévoient des formations, un accompagnement à l'entrepreneuriat et davantage d'opportunités professionnelles. Avec un investissement annoncé de 1,3 milliard de dollars sur 6 ans, le gouvernement veut transformer les potentiels de la jeunesse en véritable moteur de croissance. Écoutons le président de la République dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
Pendant trop longtemps, on a parlé de la jeunesse comme d'un risque, d'une charge ou d'un problème à gérer. Je veux, devant la nation, renverser définitivement cette lecture. La jeunesse congolaise n'est pas une menace pour la République. Elle est la condition de son relèvement. Mais reconnaissons-le avec lucidité, une jeunesse sans formation, sans emploi, sans accompagnement et sans perspective devient vulnérable au découragement, à l'exode, aux manipulations, à l'économie de survie et dans les zones les plus fragiles, aux logiques de la violence. Debout, jeune Congolais n'est pas un slogan de plus. C'est un instrument d'action publique. Ce programme repose sur la conviction que l'État ne peut pas, à lui seul, employer tous les jeunes Congolais. Mais il a le devoir de créer les conditions pour que chaque jeune puisse se former, accéder aux opportunités, entreprendre, travailler dignement et contribuer à la prospérité nationale.
14 écoles primaires modernes seront bientôt construites au Kasaï oriental. Elles seront entièrement équipées et dotées d'infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire PEKIP, financé par le Partenariat mondial pour l'éducation et mis en œuvre par la Banque mondiale. La ministre d'État chargée de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a posé lundi dernier la première pierre dans le village de Tchouvou, dans le territoire de Tshilenge, pour lancer officiellement la construction des écoles en RDC. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire PEKIP vise à améliorer l'accès des élèves à des environnements d'apprentissage de qualité et à renforcer les pratiques pédagogiques ainsi que la gestion du système éducatif. Il couvre 5 provinces, l'Ituri, le Kasaï central, le Kasaï oriental et le Sud Kivu. Au Kasaï oriental, 14 écoles sont programmées, chacune pour un coût estimé à 250 000 dollars américains avec un délai de construction de 6 mois. Elles seront accompagnées de 21 infrastructures hoches garantissant l'accès à l'eau potable, des latrines adéquates et un cadre scolaire sain. À Tchovu, l'école actuelle est construite en rameau, dépourvue de latrines et de bancs pupitres. Les élèves étudient souvent à même le sol ou apportent des boîtes de lait usagées et des briques pour s'asseoir. Ceux qui terminent le primaire doivent parcourir près de 4 km pour rejoindre les écoles secondaires de Benakabimba ou Benakanda sur la nationale numéro 1. Les enseignants manquent régulièrement de craie et utilisent des tableaux portables usés pour dispenser les cours. En lançant les travaux, la ministre Raissa Malou a rappelé que la gratuité de l'enseignement primaire public ouvre les portes de l'école à tous les enfants, mais nécessite des infrastructures capables de les accueillir dans des conditions dignes. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
En Ituri, les personnes vivant avec un handicap se disent particulièrement exposées à l'épidémie d'Ebola qui touche actuellement la province. Selon leurs représentants, leur vulnérabilité et le manque de mesures adaptées les exposent davantage au risque de contamination. Le rassemblement de personnes handicapées pour le développement intégral appelle les équipes de riposte à mieux prendre en compte le besoin spécifique de cette catégorie de la population. Le point avec Isaac Remoyope.
Près d'un millier de personnes vivant avec handicap sont enregistrées dans la ville de Bounia par les rassemblements des personnes handicapées pour le développement intégral, RPDI. Selon cette organisation, depuis le début de l'épidémie d'Ebola, les personnes en situation de handicap ne bénéficient pas d'une prise en charge adaptée dans les activités de riposte. Le RPDI cite notamment les cas de personnes à mobilité réduite qui se déplacent à rampant, souvent sans équipement de protection, y compris pour accéder à des toilettes qui ne sont pas adaptées à leurs conditions. L'organisation évoque également les difficultés rencontrées par les personnes aveugles et les personnes sourdes qui ne reçoivent pas toujours les informations de sensibilisation dans des formats accessibles. L'organisation plaide pour un accompagnement spécifique, notamment par la distribution de matériel de protection, l'aménagement d'infrastructures adaptées et le recours à des interprètes en langue des signes afin que les messages de prévention atteignent toutes les personnes concernées. Wango Sunziwa, président du conseil d'administration du RPDI.
Plus exposés. La communication passe inaperçue, donc ça nous fait peur. Il n'y a pas de moyens, il faut vraiment sensibiliser la communauté comment on doit faire pour protéger ces gens-là.
Nous n'avons pas encore obtenu la réaction de l'équipe des ripostes. Bougna, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Lutte contre la maladie à virus Ebola. Au Nord Kivu, une centaine de ménages de cas contacts reçoivent depuis ce mercredi des vivres du programme alimentaire mondial à Beni. Chaque ménage reçoit environ 100 kg de vivres composés de riz, de farine de maïs, de petits pois, d'huile végétale et de sel iodé. Pour la supervision du suivi des cas contacts dans la zone de santé de Beni, cette assistance vise à stabiliser ces ménages afin d'éviter leur déplacement à la recherche de nourriture, ce qui favorise la propagation du virus dans la communauté. Chirac Kasereka Kindandou est au micro de Marc Marofimbo.
C'est une assistance alimentaire qui vient du programme alimentaire mondial juste pour appuyer les contacts, pour favoriser les suivis. Et alors son objectif c'est stabiliser les contacts. Les contacts est supposé être suivi pendant 21 jours. Et durant ces 21 jours, il est supposé rester à la maison. Alors pour qu'il soit stable, pour ne pas se tracasser, chercher à manger, il faudra les stabiliser avec les vivres pour qu'ils se sentent un peu à l'aise. Ce n'est pas autant que quand on donne ses vivres, on a tout donné pour lui ou pour sa vie. Mais c'est juste essayer de l'aider, essayer de le sensibiliser à rester stable pour favoriser le suivi, pour se rassurer que les contacts n'ont présenté aucun signe. Parce que dans Ebola, un seul signe suffit pour devenir suspect. Mais ils ont compris. Et ce n'est pas pour ces vivres qui restent à la maison. Ils ont compris parce qu'ils sont déjà sensibilisés par les piliers de la communication avec les psychologues et maintenant avec les autres, l'équipe de surveillance. Chez les contacts, c'est le relais communautaire et le superviseur de suivi des contacts.
Les malades du Kasaï central peinent à se faire soigner. En cause, la grève des médecins membres du syndicat national des médecins, les SINAMED. Le mouvement dure depuis une semaine dans plusieurs hôpitaux. Les consultations sont suspendues. Certains patients rentrent chez eux sans soins. D'autres restent hospitalisés mais sans prise en charge médicale complète. Les infirmiers assurent les minimums mais leurs interventions restent limitées pour le cas grave. Le point avec André Katendenga la Mouloumé.
À l'hôpital général de référence Tendécha, les médecins sont absents. Dans les couloirs, les malades attendent. Certains laissés finissent par rebrousser. Ceux qui sont internés ne reçoivent pas tous les soins nécessaires. Témoignage de Julie Njiba qui est hospitalisée depuis une semaine. Je ne suis pas bien traité parce qu'il n'y a pas de médecin. C'est pénible. Les infirmiers prennent en charge les cas les moins compliqués. Mais lorsqu'un patient nécessite l'intervention d'un médecin, ils ne peuvent pas aller plus loin. Bernadette Toussekou renchérit.
Il y a beaucoup de diagnostics qui nécessitent seulement les médecins. Alors les médecins sont en grève. À notre niveau, on ne sait pas ce qu'on peut faire.
Malgré cette grève, le gouvernement n'a toujours pas répondu aux revendications du SINAMED. Le syndicat, lui, maintient son mouvement jusqu'à la satisfaction de ses revendications. Une situation qui pénalise avant tout les patients, explique David Bidoya, secrétaire adjoint provincial du SINAMED.
Nous n'avons pas un problème contre les malades, mais c'est pour exiger que le gouvernement puisse répondre à nos besoins.
Depuis le 24 juin, les médecins du SINAMED réclament notamment l'intégration de la paye complémentaire au salaire de base, la mécanisation de 1000 médecins par trimestre et l'alignement de la prime des risques pour 800 médecins chaque trimestre. Kanana, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi.
La proclamation des résultats de fin d'année scolaire est prévue ce jeudi 2 juillet. Le maire de Kindu, dans la province du Maniema, Augustin Atibou Moulamba, interdit toute manifestation de réjouissance sur la voie publique. Il justifie cette décision par le fait qu'en dehors de troubles à l'ordre public, on enregistre souvent des cas d'accidents de circulation, ainsi que des exhibitions portant atteinte à la pudeur. Ainsi, il appelle les élèves et les parents à respecter strictement cette mesure. Écoutons Augustin Atibou Moulamba, maire de Kindu, au micro de Florence Kizalunga.
À pareilles occasions, nous avons enregistré beaucoup d'accidents de circulation. Nous enregistrons aussi beaucoup de danses qui sont exhibées et qui portent atteinte à notre pudeur. Il y a beaucoup de nuisances. Voilà pourquoi je m'adresse à la population de Kindu. Qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année scolaire, notamment quand on fête les certificats, on fête les diplômes de l'enfant, ça ne se passe pas sur la place publique. Ça doit se faire à la maison. Que chaque parent, avec son enfant ou ses enfants, fête la réussite à la maison. Et tous ceux-là qui vont se permettre de fêter sur la voie publique, j'ordonne déjà à la police, aux forces de sécurité, aux services de sécurité, de pouvoir se saisir d'eux, de sorte qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Parce qu'il y a des infractions, notamment troubles à l'ordre public, atteinte à la pudeur, il y a des nuisances sonores, tout ça, ce sont des infractions. Tous ceux-là qui vont enfreindre à ces communiqués-là, ils se mettent donc à ne pas respecter la loi, et voilà pourquoi ils seront poursuivis par la justice.
Actualité internationale.
Les forces de soutien rapide engagées dans un conflit armé contre l'armée soudanaise sont accusées par Amnesty International d'avoir commis des crimes contre l'humanité et des actes de nettoyage éthique lors de leur offensive sur El Fasher au Darfour. Dans un rapport publié ce mercredi, l'Organisation de défense des droits humains affirme que ces actions pourraient se répéter si aucune mesure n'est prise pour protéger les populations civiles. S'appuyant sur le témoignage de 247 victimes de témoins recueillis entre 2024 et 2025, Amnesty International des cris de massacre, des attaques ciblées contre des civils et des graves violations de droits humains commis dans le Darfour Nord. L'ONG estime que certains actes pourraient même relever du génocide et poursuit des investigations pour établir la qualification juridique. Face à la menace d'une nouvelle offensive des FSR contre la ville d'El Obeid dans le Kordofan, Amnesty appelle la communauté internationale à déployer en urgence une force de protection des civils.
L'invité.
Renforcer la prise en charge de la santé maternelle et de nouveau-nés, c'est l'objectif d'une formation spécialisée en échographie gynécologique et obstétricale qui réunit depuis lundi en Bouchimaï 60 médecins venus du Kasaï oriental et d'autres provinces du pays. Organisée par l'université officielle de Mbujimaï en partenariat avec plusieurs institutions universitaires, cette session de 2 mois vise à améliorer les compétences des praticiens dans le diagnostic précoce et la prévention des complications liées à la grossesse. Le professeur Célestin Kadima, chef du département de gynécologie obstétrique à l'université de Mbujimaï et l'invité d'Esther Ndalafina.
Bonjour, professeur Célestin Kadima.
Bonjour, madame Esther.
Professeur, pouvez-vous d'abord nous expliquer ce que recouvre l'échographie?
Et merci de la question. Nous venons de lancer la formation sur échographie gynécologique et obstétricale au bénéfice des médecins du Kasaï oriental et ceux d'ailleurs qui ont trouvé intérêt à venir se perfectionner. En effet, l'échographie est un examen d'imagerie médicale qui se trouve au centre du diagnostic pour beaucoup de maladies chez les femmes, parce qu'ici je parle de l'échographie gynécologique, le diagnostic de maladies des organes génitaux de la femme, le suivi même de l'évolution du fœtus dans le sein de sa mère, nous le faisons grâce à l'échographie. Alors c'est un outil important que nous utilisons en gynécologie obstétrique, qu'il est nécessaire de pouvoir maîtriser ces examens, maîtriser l'interprétation des résultats pour améliorer la santé de la mère ainsi que du fœtus. Parce qu'on peut découvrir trop tôt certaines maladies, commencer à les prendre en charge afin que l'issue soit heureuse lorsque la femme va arriver à terme et qu'elle va accoucher. Les personnes qui sont venues à cette formation, c'est comme je le disais, c'est des médecins de la ville de Mbujimaï, différentes zones de santé de la province de Kasaï oriental. Il y en a qui ont pris l'inscription, qui viennent de l'hôpital de Kanyamakasese dans la province de Olomami, des médecins qui sont venus de Kamina, de Lodja, qui sont venus ici pour apprendre aux cliniques universitaires de Mbujimaï.
Qu'est-ce qui justifie l'organisation de cette formation spécifiquement à l'intention des médecins?
Très bonne question, madame Esther. C'est partant de ce que nous constatons sur terrain, c'est-à-dire il y a de plus en plus des appareils d'échographie dans des structures sanitaires, dans des hôpitaux, jusque dans certains centres de santé, il y en a. Mais la question que nous nous sommes posée, est-ce que toutes ces personnes qui réalisent ces échos sont formées et utilisent les chemins classiques. Nous sommes dit, pourquoi ne pas organiser la formation et inviter les gens à venir se capaciter, parce que de toutes les manières, et la formation à court d'emploi est une obligation lorsqu'on travaille en médecine, parce qu'il y a des mises à jour, même ceux qui ont déjà été formés, ils ont l'obligation de venir écouter encore de nouveau, qu'est-ce qui a changé, quelles sont les nouveautés. Voilà, c'est dans cette optique-là.
Les médecins qui participent à cette session exercent-ils tous dans des structures équipées pour utiliser ce type de matériel?
L'idéal, c'est cela. Il faudrait que tout hôpital qui organise une maternité qui reçoit des femmes en consultation, voire même pour d'autres maladies, puisse avoir l'échographe, un appareil d'échographie pour les diagnostics. Mais je ne sais pas, vous confirmez que tous les hôpitaux en possèdent, parce que il ne me revient pas de donner avec précision le niveau des plateaux techniques de chaque établissement de soins de santé.
Quelle est la durée prévue pour cette formation en échographie?
La phase théorique, nous avons prévu 10 jours. Le débouché, c'est l'obtention du certificat interuniversitaire. Peut-être je ne voulais pas révéler, il s'agit ici des 5 universités qui se sont mises ensemble pour former des médecins dans ce domaine-là. Il y a un formateur de l'université de Lubumbashi, un professeur de l'université de Kisangani, un professeur de l'université de Kinshasa, un professeur de l'université de Mbujimayi, campus de Chikama, et moi-même de l'université officielle de Mbujimayi. Il y a aussi d'autres spécialistes de médecine fœtale et diagnostic anténatal, comme le cas de Madame Petra Gabor de l'hôpital Sergio Pontoise de la France, qui va aussi associer à nous pour assurer cette formation. Donc la théorie, ça serait à 10 jours, jour pour jour, de 9h juste à 16h, et la phase pratique prendra 2 mois. Il y a des examens à l'entrée, des examens à la sortie avant de remettre le certificat. C'est 2 promotions parce que nous avons fait 2 groupes de 30 médecins, donc 60 médecins vont être formés en échographie gynécologique et obstétricale. Donc après cette promotion de 30, en salle des pratiques, il y a plusieurs sites sur la ville avec des moniteurs qui les accompagnent. On aura 2 stagiaires par site. Comme ça, ils ont le temps d'apprendre à côté de leur formateur et d'être entraînés suffisamment.
Merci beaucoup, professeur Célestin Kadima.
Je vous remercie, madame. Merci.
Fin de cet échange avec le professeur Célestin Kadima autour de la formation en échographie gynécologique et obstétricale organisée en Mbujimayi. Il répondait aux questions des Sterndal Afina. Fin de ce journal de 18h. Merci de faire confiance à Radio Okapi. Toute l'actualité en continu sur nos plateformes numériques. Réécoutez ce journal en podcast sur notre site www.radiookapi.net. Ce journal a été présenté par Christian Makasinga, mis en onde par Jean-Claude Siala. Profitez de la suite de nos programmes et excellente soirée.